France Musique.
Que c'est donc fait que c'est idiot de rire comme ça.
Un des 20 musiques folles, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20. Nous allons parcourir le monde, plonger dans la frénésie créatrice de cette décennie folle, entendre des musiques classiques, jazz, de la chanson, du blues et des comédies musicales. Ce voyage se fera en 8 étapes et je vous propose de débuter ce récit à New York, en compagnie des pianistes Sergei Rachmaninov, James P. Johnson, Duke Ellington et George Gershwin. Tout commence à la fin de l'année 1918 dans le port de New York. Sergei Rachmaninov se souviendra toute sa vie de sa première nuit passée à New York au mois de novembre 1918. Il débarque avec sa famille d'un bateau norvégien, le Bergensfjord. La traversée de l'Atlantique a duré 10 jours. Arrivé au port de New York, Sergei, sa femme Natalia et leurs deux filles sont conduits à l'hôtel Sherry Netherland, avec vue sur Central Park. Les Rachmaninov ont fui les événements en Russie, la révolution bolchevique de 1917 qui avait coupé net les ambitions du pianiste. Sergei espère renouer des liens avec les acteurs musicaux américains qu'il connaît bien. C'est à New York, quelques années plus tôt, en 1909, qu'il avait créé son 3e concerto pour piano au Carnegie Hall sous la direction de Gustav Mahler. fraîchement arrivés à New York, Rachmaninoff et sa famille passent une nuit épouvantable à l'hôtel. Un chahut incompréhensible envahit les rues, des cris, des sifflets, des klaxons. Qu'est-ce qui a bien pu rendre dingues les New-Yorkais pendant une nuit entière? Est-ce une révolution? La nouvelle finit par leur parvenir. Nous sommes le 11 novembre et l'armistice a été signé en Europe. La bannière étoilée, The Star Spangled Banner, que Sergueï Rachmaninoff arrange au piano quelques semaines après avoir foulé le sol américain, est jouée ici par Vladimir Ashkenazy. Rachmaninoff bénéficie des largesses de la haute société new-yorkaise. Le fabricant de pianos, Frédéric Steinway, lui offre un instrument. Un autre admirateur, mélomane, lui prête un appartement pour qu'il pratique son piano loin des regards curieux dans le lobby des hôtels. Sergueï reçoit toutes sortes de conseils, des recommandations sur les pratiques du show business à New York. Il a tout en main pour faire une brillante carrière américaine. Rachmaninoff retrouve aussi des musiciens originaires de Russie, d'Autriche, de Pologne ou encore de Belgique qui ont convergé comme lui vers la métropole mondiale. Fritz Kreisler, Ephraim Zimbalist, Misha Elman, Joseph Hoffman, Leopold Godowski, Eugène Esaïe, Yasha Eifetz et Sergueï Prokofiev. Ces deux derniers ont parcouru le globe depuis Moscou jusqu'à New York dans l'autre sens que Rachmaninoff, en passant par la Sibérie, Vladivostok, le Japon, ils ont navigué sur l'océan Pacifique, atteint San Francisco et enfin traversé les États-Unis pour rejoindre la côte Est. Yasha Eifetz a sidéré le public du Carnegie Hall en ouvrant le programme avec cette chaconne de Tommaso Antonio Vitali. Thank you. Son concert fait l'effet d'une bombe. Tout ce que l'Amérique compte de violonistes à 200 miles à la ronde est présent ce soir-là dans la prestigieuse salle à deux pas de Central Park, le long de la 57e rue. Le programme se poursuit par le second concerto de Henryk Wieniawski, puis par une demi-douzaine de pièces de virtuosité avant de finir par le 24e caprice de Paganini. Les critiques sont d'un enthousiasme débordant et la légende veut que le grand violoniste Mesha Elman, s'adressant à son voisin, le pianiste Léopold Godowski, ait dit « Il fait bien chaud ici ». « Pas pour les pianistes », aurait répondu Godowski. Sergueï Prokofiev, lui, donne son premier récital le 20 novembre 1918 au Aeolian Hall, un bâtiment tout neuf, construit 6 ans plus tôt, dans lequel s'est installé le facteur de piano Aeolian. La salle de concert est dans le quartier blanc et chic du Midtown de Manhattan, à 2 rues de Times Square. C'est une salle moins prestigieuse que le Carnegie Hall, mais plus expérimentale. De nouveaux compositeurs y sont programmés. Prokofiev joue 3 préludes de Rachmaninov, 3 pièces de Scriabine et des pièces tirées de ses propres études ainsi que sa 2e sonate. Le pianiste a l'intuition que le public new-yorkais n'est pas prêt à un récital 100% de sa composition. Et puis, le maître Rachmaninov est dans la salle, l'occasion est trop belle de jouer pour lui. Un article dans le New York Times détaille les mains de fer de Sergueï Prokofiev, ses poignets de fer, ses biceps et triceps de fer, ses omoplates de fer. Le critique musical n'a pas peur de la répétition et il ne craint pas non plus les clichés véhiculés par la propagande bolchevique. Mais Prokofiev ne reçoit pas l'accueil qu'il avait escompté. Son aîné, Sergueï Rachmaninov, canalise toute l'attention. Thank you. Lors des premiers concerts de Rachmaninov à New York et à Boston, le public scrute la moindre inflexion de son visage impassible, s'extasie devant son deuxième concerto et rappelle sur scène plusieurs fois le pianiste et compositeur jusqu'à ce que celui-ci daigne livrer le plus fameux de ses préludes, celui en do dièse mineur, qui fait un immense carton à chaque fois. La nouvelle vie américaine de Sergueï Rachmaninov est chahutée par un autre événement mondial. La veille des années 20 a ceci en commun avec notre quotidien de 2020. Une pandémie de grippe dite espagnole touche la côte est des États-Unis. Peu de temps après son arrivée, Sergueï Rachmaninov contracte lui-même le virus ainsi que ses deux filles. Le personnel médical vient à manquer. Des médecins et des infirmiers sont bloqués en Europe pour soigner les blessés de la Première Guerre mondiale. Environ 20 000 personnes décèdent de la grippe espagnole rien qu'à New York. Les masques barrent les visages inquiets. Mais la vie continue. Ici à New York, les écoles n'ont pas fermé, contrairement à d'autres villes de la côte Est. La mairie estime que les enfants sont mieux protégés et suivis à l'école que dans la rue. Sur les bus, des écriteaux rappellent « Spit spreads death », cracher répand la mort. Les théâtres et salles de concert sont contraints d'ouvrir à des heures spécifiques, de ventiler les lieux avant l'accueil du public. Les gestes barrières, la façon de tousser ou d'éternuer, sont rappelés par un maître de cérémonie qui menace d'expulser tout spectateur ne respectant pas les règles. Mais pas question de fermer les établissements pour autant. Le business du divertissement est puissant à New York. Les comédies musicales et les cinémas restent une priorité. Et quand le film de Charlie Chaplin sur la Première Guerre mondiale, Shoulder Arms, Charlot Soldat en français. Sort dans les salles, le manager du théâtre Strand sur la place Times Square se félicite d'avoir rempli la salle, avant de mourir lui-même de la grippe espagnole quelques semaines plus tard. Les principaux théâtres de Broadway, Carnegie Hall, le Metropolitan Opera, restent ouverts et la soprano Rosa Poncel, promise à une magnifique carrière, fait ses débuts dans la force du destin de Giuseppe Verdi le 15 novembre 1918 aux côtés d'Enrico Caruso.
Thank you.
Un des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique.
Mais revenons à Rachmaninov. Le pianiste est refroidi par certaines critiques musicales, en particulier par celles parues dans The New Republic, qui trouve sa musique réchauffée, manquant d'individualité et d'originalité. Est-ce l'annonce d'un désamour avec le public huppé de New York ? Pourtant, les engagements de concert ne manquent pas.
Thank you.
Au fil de ses récitals, le pianiste se réserve le droit de ne plus offrir ce que ses fans attendent, le prélude en do dièse mineur. Rachmaninov expliquera plus tard pourquoi il ne touche pas de droit sur ce morceau qu'il avait vendu pour 40 roubles à un éditeur de musique à Moscou alors qu'il sortait de conservatoire et avait faim. Cette pièce lui rappelle cruellement sa naïveté de jeunesse. Il en vient à détester ce prélude, qui est pourtant repris partout, et même sous une forme jazz, ici la version de James Reese Europe. Rachmaninov sait-il que, non loin de là, à quelques rues plus au nord de Manhattan, dans le quartier noir de Harlem, des pianistes de rag reprennent sa musique et lui vouent une immense admiration. De Harlem à New York, au nord de la 110e rue. C'est le quartier où les voitures se font rares, mais où les speakeasy, les bars cachés et les occasions de contourner la prohibition sont légion. Ici, il n'y a ni les gratte-ciels qui surgissent dans le Midtown, ni de grandes salles de concert, et pourtant, c'est ici qu'on entend parmi les meilleurs pianistes du moment. Thank you. samedi soir, les appartements dotés d'un piano sont ouverts aux rent parties. L'entrée est payante, environ 25 cents. Ça sent le poulet grillé et le chou cuit. On boit du gin distillé dans les baignoires. Ces rent parties permettent à leurs organisateurs d'amasser un petit pécule pour payer le loyer. Ils jouent beaucoup de danse, des one-step ou des charleston, comme ici ce charleston rag, composé et joué par Hubie Blake.
I wrote this, ladies and gentlemen, in 1899. See, I composed it. I always say I wrote it. I could not write music then. I didn't start to write music until I was 15 years old. And I'll play the charleston rag. Now, the bass you hear... These people call it boogie. We called it the walking bass. Now I'll play the charleston rag.
Se déroulent les joutes de piano les plus passionnantes du monde. Nuit après nuit, James P. Johnson, Willie Smith, D. The Lion, Fats Waller, Joe Turner, une bonne douzaine de grands pianistes se mesurent, se jaugent, se scrutent, se narguent et en rigolent. James P. Johnson est la figure tutélaire du groupe. Il est imprégné de musique classique, grand admirateur de Rachmaninoff. Il a toujours rêvé de faire du jazz symphonique, du jazz avec l'ampleur d'un orchestre, comme Gershwin en fera plus tard. Et c'est lui, James P. Johnson, qui joue ce Harlem Strut que vous entendez. difficile de se rendre compte aujourd'hui de ces joutes pianistiques. Les musiciens n'ont pu graver que des morceaux de 3 minutes maximum, ce qui ne rend pas justice à ces nuits d'improvisation pendant lesquelles des pianistes se passent le relais au cours d'un même morceau, le premier s'arrangeant pour moduler dans une tonalité qui mettra en difficulté son successeur. Chacun accélère les tempi, multiplie les situations critiques, improvise sur du ragtime, ajoute des syncopes et des décalages rythmiques, colore son propos de blue note, répète à l'envi des riffs pour faire monter la température dans la salle enfumée. Et c'est ainsi que le jazz prend forme à Harlem sous le doigt des pianistes, comme ici avec Robbins Everett dans un Hard Luck Blues. Thank you. Parmi les musiciens, il y a même des gueules cassées des régiments noirs qui ont fait la guerre en Europe. Willie Smith, lui, revient tout juste de France. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été volontaire pour aller sur le front et a tiré au canon de 75 mm. C'est depuis cette époque et ses récits de guerre qu'il est connu comme le sergent William H. Smith, dit The Lion. Et c'est ainsi que James P. Johnson l'a adoubé. Et en retour, James P. Johnson s'est fait baptiser The Brute. Parmi ces pianistes, il y a le tout jeune Edward Ellington, surnommé le Duke, débarqué de Washington. Duke Ellington a fait, lui aussi, la tournée des lieux de Harlem. L'homme à connaître alors, c'est Raymond Lippy Boyett. C'est lui qui engage les pianistes dans les rent parties. Il passe des nuits à se promener avec James P. Johnson, avec Fats Waller et Duke. Et Lippy peut aller chez n'importe qui, à n'importe quelle heure de la nuit. Il sonne à la porte, une fenêtre finit par s'ouvrir et une tête mal réveillée demande qui fait tout ce tapage. Lippy lui dit « C'est moi, Lippy, je suis avec James P. » Ces mots magiques font ouvrir toutes les portes. Le groupe entre et joue toute la nuit. Thank you. Au début des années 20, débute dans le métier la jeune Mary Lou Williams, prodige du piano. Elle est encore adolescente lorsqu'elle rencontre Fats Waller, nouveau phénomène de Harlem, embauché au Coney's Inn dans la 7e avenue pour une revue. Mary Lou Williams le voit derrière son piano. Le one and only déborde littéralement du tabouret, racontera-t-elle plus tard. Il a une cruche de whisky à portée de main. Il n'a rien composé pour la revue. Il improvise à mesure que les danseuses évoluent sur scène. Le spectacle se monte comme ça, livret compris, pendant que je suis assise là, les oreilles grandes ouvertes. Entre-temps, Fats Waller raconte tellement d'histoires drôles et fait tellement de bons mots que les filles ont du mal à garder leur sérieux, poursuit Mary Lou Williams. Les filles, des beautés qui chantent pour 35 ou 40 dollars par semaine, portent autour des chevilles des kilos de verroterie. C'est l'époque du New York clinquant. Après la répétition, l'un des gars parie avec Fats Waller que je pourrais rejouer tous les morceaux qu'il venait de composer. Je me suis retrouvée au piano, à moitié évanouie, à l'idée de devoir jouer devant ce géant. Je finis par reprendre mes esprits et je joue à peu près tout ce que je viens d'entendre. Fats Waller est estomaqué. Il m'attrape par la taille et me fait sauter en l'air en hurlant comme un fou.
Des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Parmi les pianistes femmes qui vivent alors de leur métier, il y a Edith Baker, dont on entend ici le Bluey Blue. Pour gagner sa vie, Edith Baker est démonstratrice de musique chez le facteur de piano Aeolian. Et le soir, elle accompagne les comédies musicales et les revues de Broadway, notamment dans les Ziegfeld Follies. Dans ces années d'effervescence, des artistes de musicals affluent du monde entier.
Let them go off. everybody happy. That's what I want. This way I walk when I got plenty of money on Broadway.
Tin Pan Alley, au sud de Times Square, concentre alors toute la nouvelle musique de ces Roaring Twenties. C'est là où l'on trouve des magasins de partitions et de disques. C'est là qu'Irving Berlin, puis George Gershwin, apprennent leur métier. Ils sont des sung pluggers. Ils font la promotion des dernières parutions musicales dans les magasins de partitions, sur les scènes de théâtre et de revues, dans les cafés. Ils font chanter aussi le public. gamin des rues du Lower East Side, fils d'immigrés juifs de Saint-Pétersbourg, devenu un passionné de piano, le jeune Gershwin est embauché comme démonstrateur de partitions. Il s'imprègne de tout ce que New York compte alors de langages musicaux, depuis le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach jusqu'au dernier ragtime de Scott Joplin et de Hubie Blake, en passant par l'opérette française et la chanson napolitaine. Son ambition est d'écrire des chansons, des songs, et il compose avec son frère, Ira, cet air qui sonne comme un manifeste. « The real American folk song is a rag. » La vraie chanson du folklore américain est un rag. Cette chanson est intégrée dans la comédie musicale « Ladies First ». Ici, on entend un enregistrement effectué bien des années plus tard, en 1959, par Ella Fitzgerald avec l'orchestre de Nelson Riddle.
Near Barcelona, the peasant croons the old traditional Spanish tunes. The Neapolitan street song sighs. You think of Italian skies. Each nation has a creative vein. Originating a native strain, with folk songs plaintive and others gay, in their own peculiar way. American folk songs, I feel, have a much stronger appeal. American folk song is like a fountain of youth. You taste and it elates you and then invigorates you. The real American folk song, a massive strong song, is a rag.
Qu'est-ce que la vraie musique américaine ? Interroge Gershwin. Le chef d'orchestre, Michael Tilson Thomas, répondra que les compositions de Gershwin sont une synthèse des musiques juives, du blues et du jazz. « La vivacité d'esprit et de composition de George Gershwin sont impressionnantes. Il écrit en quelques minutes « Swanee », musique de danse « One Step », portée sur scène en 1920 par l'une des stars les plus magnétiques de Broadway, Al Jolson, dans la revue du théâtre du Winter Garden. La mise en scène prévoit qu'une soixantaine de femmes reprennent le refrain sous une multitude d'éclairages ampoules. C'est un triomphe. Swanee se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier. La chanson rapporte à Gershwin, dès la première année, quelques 10 000 dollars en droits d'auteur, une somme colossale à l'époque. De 1920 à 1924, le pianiste compose pas moins de 45 chansons.
I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you I want to be. The birds are singing, it is song time. The banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D-I-X-I, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore. I love the old folks at home. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I give the world to be among the folks in D-I-X-I, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore.
Quand l'inspiration de Gershwin est si prolifique, elle vient à manquer pour Sergueï Rachmaninov. Rachmaninov donne son deuxième concerto avec le New York Philharmonic sous la direction de Joseph Stransky le 15 décembre 1921 au Carnegie Hall. Richard Strauss est dans le public. Son Till Eulenspiegel est aussi au programme.
Thank you.
Je déteste intensément mon activité, confie le pianiste russe. Pendant tout ce temps, je n'ai pas composé une seule ligne de musique. Je joue du piano et je donne un grand nombre de concerts. Depuis 4 ans maintenant, je m'exerce, je fais des progrès, mais à vrai dire, plus je joue, plus je vois clairement mes défauts. Et c'est la même chose dans mes compositions. Au fond de moi, j'ai la ferme assurance que je peux faire mieux. Ça me maintient en vie. Rachmaninov et Gershwin se sont-ils rencontrés? Gershwin a certainement joué des compositions de son aîné lorsqu'il était démonstrateur de partitions, mais a-t-il entendu le pianiste russe en concert? D'ailleurs, petit clin d'œil de l'histoire, Rachmaninov a l'âge exact de son père, Moshe Gershowitz, devenu Maurice Gershwin. Georges a-t-il prêté l'oreille à Heifetz, à Zimbalist? En tout cas, les trois, Rachmaninov, Heifetz et Zimbalist, seront présents le 12 février 1924 pour le plus grand coup de poker de la musique américaine, la création de la Rhapsody in Blue, avec Paul Whiteman à la direction et George Gershwin au piano au Aeolian Hall. C'est quelques mois avant que Louis Armstrong ne débarque à New York. Alors pour mieux comprendre le tohu-bohu musical qui se prépare dans la deuxième moitié des années 20 à New York, je vous propose de faire une halte à Chicago demain. Nous rencontrerons Louis Armstrong, Lil Harding et nous retrouverons Sergueï Prokofiev. Cette grande revue des années 20 est réalisée par Catherine Prin-Legal, préparée avec l'aide de Marie Ferdinand. Souad Gorsa est à la technique. À demain. Tout de suite, on retrouve Sébastien Linares pour Guitare, Guitare.
À réécouter sur francemusique.fr.